CFM Cahors, le mag.
Bienvenue sur CFM Cahors, c'est l'heure de votre mag et nous allons parler d'un sujet, ça va nous changer un petit peu, mais en même temps on en a besoin d'en parler parce que surtout si vous avez un jardin, vous en avez sûrement croisé. L'autre jour j'ai lu un article dans la Vie Quercinoise que je salue bien, un article qui parlait d'un désinsecte. Il s'appelle Philippe Claudy et en fait c'est lui qui vous appelez quand vous avez par exemple des nids de guêpes et des nids de frelons asiatiques. Et là on va parler vraiment du frelon asiatique, cette bébête qui nous fait peur quand même, et vous allez comprendre. Aujourd'hui c'est une émission spéciale film d'horreur parce que quand même cette bête c'est vraiment une saloperie. Bienvenue, vous êtes sur CFM Cahors, c'est le mag. Bonjour Philippe Claudy.
Bonjour Yannick.
Alors on est d'accord, c'est une vraie saloperie quoi.
C'est plutôt un prédateur, et notamment un prédateur d'abeilles. Et c'est pour ça que c'est un grave danger, finalement.
Alors vous êtes... on se tutoie, hein, on s'est dit qu'on se tutoyait. Donc, des insectiseurs à 5 après. Est-ce que, comment dirais-je, le frelon asiatique, c'est la majorité des interventions ?
Bien, je dirais que pour la période estivale, c'est finalement autant de guêpes que de frelons pour lesquels je suis appelé. Parce que, bien entendu, quand on découvre un nid de guêpe dans sa chambre ou dans les combles d'une maison, ça peut toujours être gênant. Mmh. Et je remarque qu'en général, c'est plutôt les gens qui se sont fait attaquer qui, bien entendu, sont motivés.
Il faut dire que ça fait mal, hein ?
C'est douloureux.
C'est douloureux quand même. Hein. Et alors, pourquoi le frelon asiatique, il faut s'en débarrasser ? Parce que ça, est-ce que c'est quand même un insecte pollinisateur, non ?
Alors, pollinisateur, je le mettrais au second plan parce qu'en réalité, on le remarque surtout pour sa prédation sur les abeilles, hein, notamment. Et c'est pour ça, comme je disais, que c'est un grave danger parce que en ce moment, il est en train de dépeupler les ruches et les apiculteurs pourront le confirmer. On les voit évoluer devant les ruches en vol stationnaire. Et c'est un spectacle assez triste. Et malheureusement, quand on les laisse faire et qu'on n'arrive pas à trouver le nid à proximité, eh bien, ils sont capables de dépeupler une ruche très rapidement.
Parce qu'ils arrivent à rentrer dedans ?
Ils attendent Quand les abeilles sont devant en défense, d'abord, elles sont stressées. Toutes celles qui sont là pour défendre l'entrée de la ruche ne sont plus occupées à travailler. Et finalement, à force d'en attraper, d'en manger ou d'en porter au nid pour les larves, eh bien, il finit par dépeupler la ruche.
Alors quand je vous disais que c'est un vrai film d'horreur, est-ce que tu peux nous raconter, Philippe, qu'est-ce que fait le frelon asiatique à l'abeille ?
Ben en fait, une fois que... Alors donc, il est en poste, en vol stationnaire devant la ruche. On le voit qu'il tourne la tête de droite et gauche. On dirait un hélicoptère de combat. Ouais. Et puis, à un moment donné, il arrive, après plusieurs tentatives, il arrive à en prendre une, il l'attrape par le dos pour ne pas se faire piquer. Puis il la mène sur un buisson à proximité parce qu'on voit bien quand même que pour lui ça pèse, c'est un fardeau. Hein. Il est pas très gros, il est guère plus gros qu'une abeille hein, finalement le frelon asiatique. Et arrivé là, il commence à lui découper consciencieusement la tête et avec ses mandibules. Et puis ensuite il s'intéresse au thorax notamment parce que c'est plein de protéines. Et ça il va le porter au nid pour les larves ou alors il le mange sur place s'il a besoin d'un petit casse-croûte.
Mmh. Donc le frelon asiatique en fait c'est comme la guêpe, c'est un carnivore.
Ah oui, complètement, oui. D'ailleurs, lorsqu'on met des pièges au printemps pour le moment tout à fait important pour attraper des rennes, on peut également confectionner des pièges avec ce qu'ils aiment beaucoup, c'est la crevette, tu vois.
Ouais.
Par exemple, alors si on a mangé des crevettes la veille, on peut garder les têtes soigneusement et puis faire un piège où ils vont venir essayer d'attraper ces morceaux de crevettes puis rester prisonnier. Quoi.
Alors tu vas nous dire comment faire un piège justement, mais d'abord...
Tu sais, tout le monde le sait, ces fameux pièges avec les bouteilles renversées.
Ah, ça marche aussi pour...
Oui, très bien, ça marche. Ouais.
D'accord, parce que j'avais cru comprendre qu'il y avait aussi certains pièges que l'on achetait effectivement dans les grandes surfaces qui ont été faits justement pour pas qu'ils puissent ressortir.
C'est le même principe, hein, la bouteille retournée avec le goulot renversé en entonnoir, c'est exactement la même chose. Une fois qu'il est rentré, il ne sait pas ressortir. Ou les trous sur les côtés, les trous latéraux également. Puis il y en a des modèles que des gens font un peu plus sophistiqués où ils mettent un tube carrément. Mais enfin, des fois, un simple trou sur la bouteille de côté fermé par le goulot avec le bouchon suspendu à un arbre, ça marche aussi.
Donc on coupe une bouteille en deux, on l'inverse, le goulot qu'on rentre
voilà,
dans le fond.
En forme d'entonnoir.
En forme d'entonnoir. Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Donc des crevettes, mais il va mourir comment donc,
D'épuisement, parce qu'il ne saura jamais ressortir.
Mais le goulot, il est quand même assez gros, il peut ressortir par là. Il n'est pas capable, il est con à ce point-là?
Je ne sais pas, il ne trouve pas. Je ne sais pas si on peut dire qu'il ne trouve pas. Il ne trouve pas la façon de sortir.
Mais il est vraiment con alors, parce qu'il est quand même là, le trou. Remarquez, quand on voit les insectes qui se battent sur une vitre alors que la fenêtre elle est ouverte et qu'ils n'auraient plus qu'à. C'est vrai que...
Bon, voilà, c'est un peu le même principe.
Un peu le même principe.
Ça, exactement.
Parce que là, en tant que... Toi, en tant que désinsectiseur, tu connais forcément des apiculteurs, parce que ton rôle, c'est aussi de récupérer des nids d'abeilles qui ne sont pas au bon endroit, donc de les amener à des apiculteurs dans ces cas-là.
Ayant moi-même quelques ruches, si
pour
je
le
peux...
plaisir.
Pardon ?
Pour le plaisir.
Oui, absolument. Si j'ai l'occasion d'attraper un essaim nu, ce qu'on appelle un essaim nu, par exemple, c'est arrivé, par exemple, une de mes ruches a essaimé cette année. Et par chance, j'étais là parce que je sentais bien que c'était un moment favorable. Et j'ai rattrapé les seins qui étaient accrochés à un buisson à côté. Bon, là, c'est le cas facile.
D'accord.
Et puis après, parfois, on peut aller les attraper derrière les fenêtres. Là, c'est un peu plus compliqué.
Pour retourner au frelon asiatique, tu disais tout à l'heure que le printemps était le meilleur moment pour les capturer. Pourquoi ? Pour mettre les pièges ?
C'est le moment où on peut attraper les fondatrices. Donc, c'est vraiment un moment clé pour essayer de limiter au maximum la propagation de ce dangereux prédateur, finalement.
Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui se passe pour elle ? Qu'est-ce qu'elle fait pendant ce temps-là ? C'est elle qui va chercher à manger pour fonder sa colonie ?
C'est ça. Après l'hiver, elle est sortie, donc elle est fécondée, elle est sortie de sa cachette et elle va créer son premier nid. Fait un boulot phénoménal toute seule.
Ouais.
Ça, quand on les découvre à ce moment-là, c'est d'ailleurs vraiment une chance de les trouver à ce moment-là. C'est, ça n'a pas plus gros qu'une balle de tennis. Elle est toute seule et elle a tout fait. Elle a fait sa première galette et elle a pondu dans ses alvéoles et elle va dorloter ses larves jusqu'à ce qu'elles naissent. Et elle est là à l'entrée, tu la vois. Elle te sourit à l'entrée.
Elle te sourit,
oui. Du tout. Ah oui, elle sourit nettement. On la voit, elle est très contente. Et. Et alors
toi, tu souris moins d'ailleurs. Mais bon.
C'est-à-dire, moi, je souris un peu, si tu veux, quand même, parce que je me dis, tiens, je suis bien content de l'avoir attrapée à ce moment-là, celle-là, parce que quand tu la découvres 3 ou 4 mois plus tard dans les nids secondaires, dans les arbres, là, c'est pas la même paire de manches, hein, je te garantis.
Parce que, alors, elle se fait féconder à quel moment alors ?
Alors, il paraît-il, d'après les entomologistes, elle se fait féconder entre la mi-septembre et la mi-décembre.
Donc maintenant, là ?
Là, on est en pleine période de fécondation.
D'accord.
Et alors après, bon, je ne sais pas, il faudrait peut-être avoir plus de détails. J'avais lu qu'il y avait, à ce moment-là, je ne sais pas si c'est une espèce de mutation génétique ou pas, des entomologistes confirmés pourraient nous éclairer un peu plus là-dessus. Il semblerait qu'il y a 400 à 500 rennes dans les nids à ce moment-là, dans les gros nids secondaires. C'est ceux qui ressemblent à des jambons qu'on voit suspendus aux arbres. Là.
C'est impressionnant d'ailleurs.
Oui, oui. Et alors bon, elles vont s'enterrer... Quand l'hiver arrive, quand vraiment le mauvais temps arrive...
Elle s'enterre ?
Elle déménage, s'enterre, elle se cache sous des planches, elle trouve...
Mais elle mange quoi pendant ce temps-là ?
À mon avis, alors encore à confirmer, encore à vérifier, il semblerait que c'est une sorte d'hibernation, en fait. Elle est équipée pour survivre. Alors, il y en a pas mal qui ne vont quand même pas passer l'hiver. Hein. Le gel, la pluie, etc., suivant l'endroit qu'elles auront choisi.
Mais sauf que, par exemple, si on a des hivers comme on a eu l'hiver dernier, qui n'était pas très froid, dans le Lot, ici, enfin à Cahors, par exemple, on n'a pas eu énormément de gel.
Ouais, alors,
est-ce que, du coup, il y a eu un peu plus de frelons asiatiques ?
Difficile à dire, mais on peut dire aussi qu'on a eu beaucoup plus de pluie.
Oui,
alors,
aussi.
Est-ce que celles qui étaient plus proches du sol ont... Tu vois, tout ça, c'est très difficile à déterminer, en réalité.
Parce que tu me disais, hors antenne, que la saison avait pris du retard.
Oui. Cette année, la saison a pris du retard parce que, avec les pluies qu'on a eues et le mauvais temps, moi j'ai constaté que, d'ailleurs, au mois de juillet, je me disais, tiens, c'est bizarre, personne ne m'appelle. Où est-ce qu'ils sont passés ? Et c'est pas possible, ils ont disparu. Non, pas du tout. Ils étaient bien là, sauf que, ayant pris du retard, trois semaines, un mois de retard, j'estime. Eh bien, maintenant, quand je les ai découverts, les premiers nids sur lesquels j'intervenais il y a un peu plus d'un mois, ils avaient la taille d'une orange. Maintenant, ils ont la taille d'un gros ballon de basket. Ça va très, très vite. Et c'est exponentiel, parce que plus ils vont être nombreux, plus ils vont aller vite.
Et ça, c'est la reine frelon asiatique qui a simplement mis au monde tout ce petit monde qu'il y a dans cette ruche.
Ben, disons que c'est les œufs qu'elle a pondus qui ont éclos et qui ont... Oui, oui.
Et ils se reproduisent, mais après, est-ce que c'est parmi ces frelons, ils se reproduisent aussi entre eux ou il n'y a que la reine qui doit faire les larves?
Alors là...
C'est une colle.
C'est un peu une colle parce que, comme je te disais, il semblerait qu'il y a de multiples reines qui se font féconder à un moment donné. Alors, bon. C'est... Alors, j'avoue que je ne suis pas moi-même un entomologiste, ouais, ouais. Je ne suis pas vraiment spécialisé pour parler ça. Il serait d'ailleurs intéressant d'en trouver un qui... Un jour qui nous éclaire un peu plus.
Je lance l'appel. S'il y a un entomologiste près de vous qui est capable de nous expliquer tout cela, eh ben, contactez-moi, on fera une émission là-dessus.
Et notamment sur le frelon asiatique.
Et sur le frelon, alors,
spécialisé. Parce que maintenant, depuis 2004 qu'il est présent sur le territoire, je pense qu'il y en a qui ont étudié sérieusement le bestiau.
Alors, je viens de me rendre compte, en plus, qu'on n'a pas commencé par le début, cette émission, Philippe Claudie. Oui. On parle du frelon asiatique. Mais déjà, d'un premier temps, comment on le reconnaît?
Ah, c'est simple.
Je pense que c'est la question là, qu'on aurait dû se poser en premier, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai, c'est une bonne question, parce que souvent, les gens m'appellent et me disent « Ah, j'ai frelon asiatique », puis alors j'arrive, alors soit c'est des guêpes, soit c'est du frelon jaune. En fait, c'est très simple à reconnaître. Il est plus petit en taille que le Vespa crabro.
Alors, en centimètres, pour donner une idée de valeur, ça fait quoi, entre combien et combien? Pour donner une idée de valeur aux gens, en centimètres, hein.
En centimètres, je dirais, le frelon asiatique peut faire...
5 centimètres, alors
peut faire 2-3 centimètres.
Ah, pas plus.
Non, c'est vraiment pas très gros. Et après, parfois, on rencontre des frelons jaunes, le frelon indigène, bien plus gros, souvent.
D'accord.
Mais tout en sachant que la taille de frelon, quel qu'il soit, quelle que soit l'espèce, ne dépend pas de son âge, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est en fait dû à l'endroit où il est né. S'il est né dans une grosse alvéole, il sera gros, dans le même nid. Hein. S'il est né dans une petite alvéole, il est petit. Ouais, c'est marrant.
Mais du coup, il a une couleur différente alors?
Ah oui, oui. Il a l'abdomen orange, ouais, rayé de deux bandes noires, et le thorax noir, d'où son nom, Vespa velutina nigri thorax.
Et c'est violent envers l'humain? Parce qu'on avait compris avec l'abeille.
C'est beaucoup. Moi, en tant que désinsectiseur, je constate une différence de comportement notable. C'est-à-dire maintenant, carrément, je trouve que le frelon indigène, il est gentil.
Malheureusement, ah oui, à ce
point-là. Ben ouais, le pauvre. Malheureusement, on est obligé de le détruire parce que parfois, quand ils sont dans une cheminée, dans une maison, bon, ben, pour les gens, c'est pas très sécure de se retrouver avec 10 ou 15 frelons qui volaient à travers la pièce le soir. Et puis, on peut quand même se faire piquer malgré tout.
Parce que le frelon classique, lui, s'en prend pas aux abeilles?
Alors, certains m'ont dit qu'il aurait appris du frelon asiatique et qu'il ne se m'a fait pas... J'émets des doutes, hein. je ne l'ai pas vu faire personnellement. Moi. Alors que le frelon asiatique, lui, est carrément déterminé à bouffer de l'abeille. Hein.
Donc, on a vu comment le piéger, et pourtant, des fois, ça ne suffit pas. Alors, ça veut dire quoi? Chaque fois que l'on voit... Bah, d'abord, comment faire la différence entre un essaim d'abeille et un nid de frelon asiatique, Philippe Claudie?
Ben non, ça n'a rien à voir. Hein. Vraiment, d'un simple coup d'œil, on voit la différence quand même.
Et c'est quoi la différence?
Ben écoute, tu sais bien reconnaître une abeille.
Ouais. Ouais.
Une guêpe également.
Ouais.
Bon, déjà, t'es pas mal. Ouais. Alors après, franchement, si tu peux pas reconnaître un frelon...
Ouais, mais le nid...
Alors le nid...
Et il est différent de...
Ben alors les nids d'abeilles sauvages, si tu veux, c'est souvent dans des arbres creux.
Ouais. Hein,
ou alors elles viennent d'une ruche, bon, ça c'est autre chose. Mais le nid du frelon asiatique, il est tout à fait reconnaissable parce qu'il a une forme ronde. Les premiers nids qu'on découvre qui sont un peu partout, ils sont très opportunistes au début. Hein. Ça peut être dans un buisson. D'ailleurs, j'en profite pour mettre en garde les gens quand ils ouvrent un cabanon à la fin de l'hiver, un cabanon de jardin, ou ouais, tu vois, avec des plafonds bas comme ça. Très souvent, on peut avoir une très mauvaise surprise. Prenons le temps, avec ce nouveau prédateur, prenons le temps d'observer. Et quand on a un travail à effectuer dans le jardin, pour voir qu'est-ce qui se passe. Et si on commence à remarquer des allées et venues d'insectes d'un point à un autre, enfin venant tout le temps du même endroit, là on peut commencer à se poser des questions. Il y a peut-être un nid caché quelque part. Ça évitera des piqûres douloureuses.
Ouais. Ouais.
Dans un cabanon, tu vois, par exemple, ouais, souvent c'est des plafonds bas. T'as une boule perchée, imagine la personne. Et souvent, ça arrive, hein. On m'appelle, puis ils l'ont vu au dernier moment, et par chance, ils ne se sont pas fait piquer. Ils l'ont juste vu du coin de l'œil. Mais quelqu'un ne l'a pas vu. Tu prends un râteau, par exemple, avec un manche long, bam, tu en mets un coup. Alors là, mon pauvre, attaque massive.
Là. T'en as subi, les attaques ?
Ben, moi, je me couvre.
Alors, j'ai cru comprendre que la combinaison d'un apiculteur n'était pas la même que pour...
Non, c'est résolument beaucoup plus épais, avec une grille métallique devant le visage.
Parce que le dard est beaucoup plus fort.
5 mm de long.
Et une abeille, c'est quoi ? C'est combien ?
Oh, c'est, regarde, ça doit être beaucoup plus petit. Une abeille, ça doit être 1 mm.
Alors qu'ils ont approximativement la même taille.
Non, ils sont un peu plus gros quand même.
Un peu plus gros.
Mais bon, le bon dard, tu vois. Bien équipé pour l'attaque. Et alors, ils attaquent directement la tête.
Ah bah, dis donc, alouette,
sans...
hein.
Ah ouais, ouais, sans discussion.
pas de négociation.
Ah non, il n'y a aucune négociation.
Mais ils meurent après aussi, d'ailleurs, quand
pas
ils ont piqué
tout.
Pas du
bah
tout.
Voyons,
oh,
pas
bah voyons.
Idée, ils te piquent plusieurs fois.
Ah, en plus.
On n'a que le bon temps qu'on se donne.
Hein. ils perdent pas leur dard, quoi.
Ah, non, c'est l'abeille qui perd son dard, parce qu'elle a un harpon, elle, tu sais.
Ah ouais.
D'ailleurs, il y a un truc à faire, c'est quand on se fait piquer par une abeille, enfin, je dis ça, mais moi-même, je suis le premier à le faire. Souvent, plaf, on se met une claque, et le truc à pas faire, parce qu'il y a une poche à venin qui reste accrochée avec le dard à aiguillon, et qui pompe, d'ailleurs, tu c'est curieux à observer, tu vois la poche à venin qui pompe toute seule et qui envoie son venin. Et donc, quand tu l'aplatis,
bah,
tu augmentes le truc. Donc, tu as ta bonne dose de venin, et après, va te plaindre parce que tu te grattes. Hein.
Alors, Philippe Claudie, oui. Toi, en tant que désinsectiseur, et puis les autres, comment vous y prenez pour supprimer un nid de frelons asiatiques ? Là, on a bien compris déjà dans un premier temps que tu avais une tenue spéciale, donc on déconseille fortement aux gens de vouloir acheter les bombes d'insecticides dans le supermarché.
Ils peuvent toujours le faire quand ils s'y attaquent de bonne heure avec un nid de, tout petit. Enfin, mais le problème, si tu veux, avec ça, c'est que dans les bombes insecticides, c'est un effet choc. Donc, on va tuer tous les insectes qui sont présents sur le coup. Mais tous ceux qui étaient en chasse à l'extérieur, qui vont revenir tout au long de la journée, ça ne leur fait rien. Parce qu'il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de rémanence avec ces produits-là. Tu vois ? Alors quand les produits professionnels biocides pour lesquels on a une certification, eux ont une rémanence de plusieurs semaines.
Mais si on s'y prend quand ils sont tous couchés, est-ce qu'il y a des possibilités de réussir l'extermination ?
Oui, alors ça, c'est ce qui semble le plus logique. En
mais il y a une prise de risque, non ?
De les prendre dans leur lit directement.
Ouais.
Alors
quand,
qu'ils sont encore endormis. Ça semble logique, en effet.
Ouais. Ouais.
Mais à condition que le nid ne soit pas trop... Mais je déconseille, franchement... De jouer à ça parce que on n'est pas à l'abri d'une piqûre, franchement, qui peut être dangereuse parce que tu sais, on sait, tout le monde sait que la quantité de venin que l'on reçoit au cours d'une vie, c'est ce qui fait qu'un jour, tu deviens allergique.
Ah.
Tu as pu te faire piquer plusieurs fois dans ta vie par une guêpe ou une abeille ou un frelon. Et bon, à part la démangeaison, la douleur, la démangeaison qui peut durer quand même des fois 2 à 3 jours, rien de plus. Mais un jour, sans qu'on sache pourquoi, ou plutôt c'est la quantité de venin, tu deviens allergique et là ça se passe mal, ça peut vite finir à l'hôpital.
Un choc anaphylactique,
ouais, exactement.
Je ne sais pas si j'ai bien prononcé le mot d'ailleurs,
ouais.
Mais du coup, alors après vous, en tant que désinsectiseur, une fois que vous avez repéré le nid, bon déjà premièrement c'est toujours en hauteur, donc j'imagine que tu
Pas forcément.
Pas forcément, ah
non. Il est arrivé, tu vois, une petite dame qui m'appelle, la pauvre, elle faisait 40 kilos, elle me dit, je me suis fait piquer par des guêpes. Et j'arrive, oh mon Dieu, c'était pas des guêpes, c'était un nid de frelons asiatiques dans un buisson à 1 mètre du sol, pas plus.
D'accord.
Et comme le buisson était taillé couramment, fréquemment, et si tu veux, il était bien compact, impossible de détecter quoi que ce soit à l'intérieur. On ne pouvait pas le voir, sauf à écarter les branches une fois équipé. Et elle était ramassée des feuilles juste en dessous, 7-8 piqûres. Mais non, elle est costaud parce que la femme, elle avait l'air de faire 40 kilos. 7-8 piqûres, c'est costaud hein, quand même.
Ah oui, 7-8 piqûres.
De frelons asiatiques.
Ah, frelons asiatiques, oui, on avait bien compris.
Donc ça peut être dans des endroits comme ça, ça peut être sous des toitures. Ils aiment bien les avant-toits en bois, tu sais, où il y a un peu d'espace. Ils sont à l'abri de la pluie, pour s'envoler, c'est facile.
Ouais.
En gros, à peu près partout, des tas de bois aussi. Un copain m'appelle l'autre jour, il dit, un de s'était fait piquer parce que il dit, tiens, il faut qu'on bouge ce tas de bois parce que des frelons risquent de s'y installer. C'était déjà fait. Bam, en commençant à déménager le bois, une piqûre, allez.
Qu'est-ce qu'il faut qu'on...
Des Asiatiques, dans un tas de bois informe, comme ça. Donc, on se demande même où est-ce qu'ils allaient. Ils allaient sûrement déménager plus tard pour trouver un endroit plus...
Ce qu'il faut comprendre, Philippe Claudie, c'est que ces frelons-là, il n'y a pas besoin de s'attaquer au nid pour qu'ils vous attaquent.
Non, ils sont tellement agressifs que parfois, même en passant à proximité, ils considèrent que tu es une menace. Donc, attaque.
Et vous, alors, vous faites comment, du coup, une fois que vous avez repéré le nid?
Alors, j'interviens...
Petit coup de batte de baseball dans le nid.
On va éviter ça. Ouais. Ouais. Mais lorsque le nid est en hauteur, j'opère avec une perche télescopique dans laquelle il y a un tuyau. Et avec un pulvérisateur à poudre sous pression, j'envoie la poudre insecticide dans le nid avec la canule qui rentre dans le nid. Donc, comme ça, j'en dissémine pas partout.
Mais là, ils commencent déjà à attaquer.
Alors là, ils sont pas contents, là.
Ah ouais?
Ouais, là, ça leur plaît pas tellement. Et alors, c'est là que c'est malin, parce qu'ils suivent la perche et ils comprennent qu'au bout, il y a un type qui leur veut pas du bien, quand même. Là, ils attaquent. Ouais. Contrairement, si tu fais ça au frelon jaune, il attaque pas.
T'as. C'est une vraie saloperie, c'est ce qu'on disait depuis le début.
Non, il est pas content du tout, il t'attaque direct et à la tête.
Et du coup, vous injectez un produit, alors, dans ce cas-là?
Oui, poudre insecticide.
Ouais. Et il se passe quoi, alors? Parce que s'ils sont sortis du nid... ceux qui sont sortis.
Ceux qui n'étaient pas là.
Ouais.
Alors quand ils reviennent, ils comprennent bien qu'il y a un truc pas normal qui arrive. Alors ils tournent, ils virent, ils hésitent longtemps. Puis c'est plus fort qu'eux, ils finissent par rentrer quoi, pour venir aux nouvelles. Et là, ils s'intoxiquent.
Donc ça veut dire que dans un premier temps, vous mettez le poison, mais vous ne venez pas chercher le nid tout de suite. Alors vous laissez agir quelques heures.
Au contraire, il faut laisser agir parce qu'il y a une rémanence du produit pendant jusqu'à plusieurs semaines. Donc, c'est presque excessif parce qu'en réalité, le soir venu, tout le monde est cané. Hein.
Ouais.
Mais finalement, ça fonctionne bien comme ça. Ouais.
C'est impressionnant quand même parce que, je vous ai déjà dit que ça allait être un film d'horreur. Hein, donc, parce que c'est pas sympa du tout, hein, comme bête. Hein. Moi, j'ai entendu dire que des ruches entières pouvaient être complètement éliminées à cause des frelons asiatiques.
Oui, totalement. J'ai rencontré un monsieur il n'y a pas longtemps. Il était désespéré. Il avait 14 ruches. Il a tout perdu à cause du frelon.
14 ruches,
c'est
tout perdu.
Il a tout perdu.
Mais, d'accord.
Il va avoir plusieurs nids autour et là, ça va vite. Hein. Ouais. C'est l'usine de destruction massive.
Et là, tu l'as senti, toi, quand même, que des frelons, il y en avait de plus en plus ou pas, des frelons asiatiques?
Difficile à dire, mais l'autre jour, il y a une dame qui m'a appelé du Finistère parce que, tentant d'essayer un nouveau procédé totalement organique, si on peut dire, à base de vapeur brûlante, elle m'a confirmé que dans la région où elle habite, c'est-à-dire le Finistère, ils sont très peu envahis, contrairement à nous. Nous, en Nouvelle-Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, on est très envahis parce qu'on a été les premiers.
Hein. Enfin, le Finistère, il manque un peu de soleil, peut-être pour ça.
J'avais pas pensé à ça.
C'est un peu facile comme attaque, mais...
C'est pas bête. Parce que, t'as raison, parce que la région de Chine d'où est originaire ce frelon, elle a un climat tout à fait similaire à la Nouvelle-Aquitaine.
Et puis l'hiver ne doit pas être sympa pour la survie aussi, là-bas dans le nord de la France.
Peut-être, ouais, peut-être.
Et donc, on conseille, hein, effectivement, si vous avez un nid de frelons là actuellement, c'est maintenant qu'il faut s'en débarrasser, on appelle un désinsectiseur.
Oui, et puis je vais dire à tout moment même.
Hein. Ouais, à tout moment, oui, de toute façon, qu'il arrive.
Mais piégeage des rennes, capital au printemps, si on peut.
Mais parce que, effectivement, alors piégeage des rennes, et puis parce que j'imagine que les nids, on les voit plus facilement avec les feuilles qui tombent.
Alors aussi. Après...
C'est pour ça.
Les nids secondaires, oui, c'est là qu'on les voit.
Ouais. Ouais, parce qu'il y a le nid primaire, c'est vrai. Ouais. Nid primaire. On en profite, un site internet, Philippe Claudie, pour...
Il est en cours de fabrication.
Cours de fabrication, d'accord. Eh bien, très bien. C'était intéressant de s'occuper un petit peu du frelon asiatique. Et donc, on rappelle, hein, personne n'agit par soi-même. Hein. Vaut mieux éviter quand même.
Je le déconseille.
Voilà, parce qu'il vaut mieux investir une petite somme quand même pour être tranquille, parce que mine de rien, ça ne fait pas forcément plaisir. Donc Philippe Claudie, désinsectiseur à 5 après, et puis on peut en trouver d'autres, hein, des désinsectiseurs aussi dans le coin. Je pense que vous devez être nombreux dans ces secteurs très campagnards comme le Lot. Merci Philippe Claudie d'être passé.
Avec plaisir.
C'est la fin de ce magazine, à réécouter tout à l'heure à midi, à 17h, pardon, et 21h30, et puis en podcast dans l'après-midi sur cfmradio.fr. Dans un instant, le journal.